le bruit qui nous faisait peur il y a des années, aujourd'hui continue de nous faire peur quand il n'est pas considéré comme musique. Je prends l'exemple typique, quelqu'un qui crie dans la rue, ça fait peur, ça nous fait peur, et puis on se dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et puis si on va sur une scène de death metal, aujourd'hui, on a des gens qui hurlent toute la journée en faisant des concerts, ils hurlent, et les gens sont devant, on a l'impression ça comme de musique. Ça dépend où est-ce qu'on met le bruit. Prenez un bruit de marteau-piqueur, quand vous êtes tranquille chez vous, vous entendez le marteau-piqueur, évidemment, ça vous dérange. Ça, c'est du bruit. Mais dès que vous mettez marteau-piqueur sur une scène avec des instruments, et automatiquement, ça devient de la musique, puisque tout d'un coup, il fait partie d'un orchestre de son. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment le bruit a intégré l'histoire de la musique à partir surtout d'il y a 150 ans, c'est-à-dire à l'époque du compositeur Richard Wagner, qui est un peu celui à partir duquel on a fait tout notre spectacle. Et je vais vous faire écouter un passage de Richard Wagner dans un opéra immense qui s'appelle L'Anneau du Nibelung. Et cet Anneau du Nibelung, c'est 4 opéras qui, mis bout à bout, font 18 heures de musique. On les joue jamais bout à bout, je vous rassure. On les joue en séparé, 4 opéras séparés. Mais ce sont des grandes histoires immenses dans lesquelles il nous raconte l'histoire d'un nain qui attrape un anneau au fond du fleuve le Rhin, et grâce à cet anneau, il a un pouvoir incroyable et une puissance incroyable. Et le moment où on descend dans la forge des nains, c'est-à-dire dans les mines où les nains forgent les épées, Richard Wagner fait quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. Il change complètement notre écoute en installant des instruments inimaginables sur une scène d'opéra à l'époque. Je crois précis, c'était il y a 150 ans. C'est-à-dire un moment où on n'a pas encore l'électricité pour faire de la musique électrique. On a des salles de concert qui sont dédiées, mais qui ne sont pas immenses en général. On commence à faire des salles assez grandes. Et surtout, en général, dans l'orchestre symphonique, ce ne sont que des violons, des instruments qui font des hauteurs, qui font des belles notes. Et que tout d'un coup, Richard Wagner intègre autre chose. Des cloches, ouais, c'est comme si on avait des cloches autour du cou d'une vache, ou bien des cloches, des gens qui jouent des cloches. Et ça, les cloches, on en a depuis longtemps dans l'histoire de la musique. Il y a déjà 1000 ans, on utilisait des cloches pour se donner les notes, on faisait des orchestres de cloches. Sauf que là, c'est pas des cloches. C'est d'autres instruments métalliques, mais qui n'étaient pas du tout considérés comme des instruments de musique. Ce sont des enclumes. Et ils demandent d'installer 10 enclumes à différents endroits de la scène, et il y a 10 percussionnistes qui vont jouer des enclumes. Donc Richard Wagner, il crée un moment incroyable, mais lui, il n'avait pas du tout l'intention de mettre du bruit dans sa musique. Il voulait juste décrire les nains en train de forger des épées. Sauf que pour nous, ce qui est incroyable, c'est une des premières fois où on a un ensemble d'instruments qui ne sont pas des instruments de musique au départ, qui sont posés sur une scène pour faire du bruit. Et à partir de là, on va imaginer comment on va pouvoir intégrer du bruit aussi au fur et à mesure. Il y a longtemps, on utilisait déjà des machines à faire du bruit dans les opéras. Mais c'est du bruit qu'on associe à quelque chose que l'on connaît. C'est-à-dire que c'est du bruit qui nous parle de l'orage, ou c'est du bruit qui nous parle des enclumes sur lesquelles on forge les épées. Le moment où on va mettre du bruit qui nous dit plus rien du tout, mais qui est juste du son, ça vient un tout petit peu après. Solo, un italien, qui s'est dit tiens, je vais inventer des machines à faire du bruit. Et j'ai écrit des morceaux avec des musiciens qui jouent, et puis à côté, je vais mettre du bruit. Et il a inventé ce qu'on appelle les intonarumori, qui sont des boîtes vraiment pour faire du bruit. Et en 1913, derrière plus de 100 ans maintenant, il va écrire ce qu'on appelle un traité de bruit. Il va dire comment est-ce qu'on peut passer, faire du bruit en fait, avec de la musique. ou bien faire plutôt du bruit pour faire de la musique. Et donc, dans chaque boîte, vous avez un bruit différent. Vous pouvez avoir un bruit qui fait crepitatore, un bruit qui fait ronzatore, un bruit qui fait ululatore. Pour nous, aujourd'hui, Luigi Rossolo est comme le père de la musique bruitiste. La musique bruitiste est hyper importante pour notre spectacle et pour toute la culture que l'on a aujourd'hui, puisque la majorité des artistes qui font de la musique électronique aujourd'hui en particulier sont passés par les musiques bruitistes, ou en tout cas se sont intéressés au bruit qui les entourait. Et Luigi Russolo, lui, était un des premiers à se poser la question de comment on pouvait faire de la musique avec que des bruits. Donc si on pense à Wagner avec son opéra, avec ses enclumes, si on pense à Luigi Russolo avec ses machines de bruit, ben il faut aussi intégrer, parce que là, il a créé des machines de bruit, on peut aussi intégrer des bruits de tous les jours, comme des bruiteurs qui pourraient très bien faire partie d'une partition. Là, on est vraiment bien en amont dans l'histoire de la musique, on est à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Voilà, ça ressemble plus trop à du Bach. Et pourtant, il est derrière. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait effacé un petit peu. Et là, ça y est, on est dans le bruit. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, on a inséré des choses, on est en train d'embrouiller dans le bac, tout d'un coup, on a un truc qui nous dérange, qui nous fait sortir notre écoute un peu, et puis on fait, bah tiens, je vais aller par là. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a collé des éléments dedans. C'est-à-dire, comme si on avait mis un violoniste qui jouait, et puis par-dessus, bah tiens, je vais rajouter ça, tiens, je vais rajouter ça. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire des musiques qu'on a appelées électroniques. Musique électro-acoustique au départ, c'est des gens qui ont enregistré des sons, qui ont enregistré même des instruments, et qui rajoutaient, en appuyant sur des boutons, ou bien en collant des bandes les unes sur les autres, à passer d'une bande à une autre, à faire « tiens, je vais rajouter un petit son comme ça, là, tiens, un petit son là, puis tiens, je vais coller d'autres sons par-dessus, comme ça on va noyer un peu la musique pour en faire une musique qui ressemble à plein d'autres choses. » Je vous passe un petit extrait d'un autre morceau de Bach, vu par un grand compositeur bruitiste, on peut dire ça, qui s'appelle Pierre Schaeffer. Alors lui, il est parti du bruit qu'il enregistrait tous les jours et il en faisait de la musique. Et on a dit que c'était le père des musiques électroacoustiques parce que c'est un des premiers à faire des morceaux entièrement de bandes magnétiques collées. Après, c'est devenu des disques et tout ça, mais au départ, c'est juste des enregistrements. C'est pas le premier à le faire, mais c'est le premier à en faire, par exemple, de manière globale et souvent régulière. Et tout le monde l'a suivi ensuite. Et Pierre Schaeffer, à un moment, il s'est dit « Oui, mais moi, j'aime bien coller des sons de train. » Il a fait une œuvre pour des bruits de train, il a fait une œuvre avec des bruits de bol, des bruits de ceci, des bruits de casserole, il y a une étude aux casseroles. Puis à un moment, il s'est dit, ouais, mais si je mettais tous ces bruits-là avec un compositeur ancien, et voir comment ça marche les deux ensemble. Donc on va écouter une œuvre de Bach vue par Pierre Schaeffer. Super. C'était toujours la même chose, c'est comme si on était parti du piano et qu'on les avait remplacés, on avait remplacé le piano par des autres sons. En fait, Pierre Schaeffer, il s'était amusé à prendre des bruits tous les jours, les éponges qui grattent, les bruits de fouet pour faire la cuisine. Et il a intégré une partition que tout le monde a un peu en tête, ou alors j'ai entendu, je veux dire, ce morceau-là, on l'a entendu. même dans le cinéma, il est très utilisé. Et il s'est amusé justement à travailler là-dessus. C'est comment on peut prendre un morceau que tout le monde connaît et en faire une œuvre très moderne, alors qu'elle a été écrite il y a 300 ans. Et tout le propos est là, dans ce que les musiques électroacoustiques vont faire, et ensuite les musiques électroniques. C'est prendre des sons que tout le monde peut connaître, mais en les mettant, en les collant ensemble, créer une musique très moderne. Et on peut prendre des sons de tous les jours comme des sons fabriqués entièrement. Si vous prenez la musique électronique aujourd'hui, la musique moderne, entre le bruit, le geste du musicien, je veux dire, le geste fait autant partie du son que le son fait partie de la musique. Et pourquoi je parle de ça? Simplement parce que si vous mélangez le geste du musicien qui a beaucoup évolué, vous mettez du bruit à l'intérieur, et vous pensez en collage de gestes et de sons, vous arrivez aux musiques électroniques. Mais vraiment. C'est-à-dire que cette idée de pouvoir coller des sons différents en plusieurs couches, toute cette idée-là, justement, c'est pour vous dire que tout ça est en germe déjà il y a 100 ans. Et comment on va les réunir? C'est par des artistes qui ont un double parcours. C'est-à-dire qu'ils ont très bien écouté ce que Pierre Schaeffer faisait avec du Bach ou autre chose à rajouter des bruits. Autrement, faisait aussi, venait souvent de conservatoires avec une très grande culture, mais ont eu cette culture urbaine, justement, du bruit, du travail sur le vinyle, d'attraper des sons, de les emprunter. C'est pas la musique électronique qu'on entend à la radio régulièrement. Mais par contre, c'est une musique qui, elle, ouvre les oreilles parce qu'elle réunit tous les questionnements qu'on a eus sur le bruit, sur le collage de sons différents, et puis sur des matières musicales, des gestes musicaux qui sont propres au XXe siècle.